Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En Centrafrique, un regroupement des ex-Séléka au centre nord du pays inquiète à Bangui. Human Rights Watch accuse le régime burundais de répression à l'approche du référendum constitutionnel. Dans les dossiers du jour, c'est aujourd'hui la sortie officielle du livre écrit par l'ancien directeur du FBI, James Comey.
De ce point de vue, il donne un peu plus de crédibilité donc à l'enquête sur la collusion entre la campagne de Trump et puis la Russie. Il a choisi le bon moment.
Mais aussi la commémoration du 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, un héritage toujours vivant.
C'est une figure de combattant, c'est une figure donc de résistant. C'est quelqu'un qui porte aussi la paternité donc de ce mouvement si important qu'est la négritude.
Dans la Minute Éco, le FMI prévoit une solide croissance mondiale mais pointe les risques d'une guerre commerciale et tour de cadrage retour de la Coupe CAF dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, le regroupement des ex-Séléka dans la ville de Kagabandoro, au centre nord du pays, inquiète à Bangui. Alors que la MINUSCA appelle au calme, les anti-Balaka dénoncent une attitude irresponsable, susceptible de compromettre la paix. Sur place à Bangui, notre correspondant Freeman Tipila.
Une trentaine de 4x4 Land Cruiser équipés de l'armement lourd et des centaines de motos transportant 3 à 4 combattants ont déjà fait leur entrée dans le centre de Kagabandoro. Un rassemblement d'ex-Séléka débuté samedi dernier et qui se poursuit. On ignore encore la raison de cette forte mobilisation, mais selon des indiscrétions, ces hommes armés auraient l'intention de faire pression sur le pouvoir de Bangui en menaçant de marcher sur la capitale ou encore de partitionner le pays. Information non encore confirmée par les responsables de ces mouvements armés, jusque-là injoignables. À Bangui, la MINUSCA appelle au calme, rassurant que ce rassemblement ne constitue pas encore une menace. De leur côté, les anti-Balaka haussent le ton. Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Bangui, leur coordination dénonce une attitude irresponsable. Sébastien Wenizui, coordonnateur.
Trouvant comme prétexte inutile de la situation de PK5, Noureddine Adam, Ali Daras, Abdoulaye Hissène et leur acolyte positionnent des matériels de guerre à partir de Kagabandoro vers la direction de Bangui. Cette attitude gauche et irresponsable tend à mettre en péril non seulement tous les efforts de la paix et réconciliation appuyés par la communauté internationale depuis la crise de 2013 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi à déclarer la guerre au peuple centrafricain tout entier sans distinction aucune.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, dans un rapport publié ce mardi, Human Rights Watch dénonce la répression à l'approche du référendum sur le mandat présidentiel et accuse le gouvernement d'emprisonner et de tuer des opposants. Les précisions de John Lyndon.
Selon l'organisation, les forces gouvernementales du Burundi ainsi que des membres du parti au pouvoir ont tué, passé à tabac ou intimidé des citoyens perçus comme étant des opposants à un référendum constitutionnel prévu pour le 17 mai 2018 et qui permettrait au président de rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat actuel. Il n'y a guère de doute que le référendum qui s'annonce sera accompagné de nouveaux abus, a déclaré Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale de Human Rights Watch. Elle note également que des responsables burundais et les Imbonerakure commettent des violences avec une impunité quasi totale afin de permettre à Nkurunziza de renforcer son emprise sur le pouvoir. L'annonce en avril 2015 de la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat controversé avait marqué le début d'une crise politique qui a fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés, selon les sources, notamment l'ONU et des ONG. La CPI a ouvert une enquête sur ces violences, principalement attribuées aux forces de sécurité et aux Imbonerakure.
Au Nigeria, des heurts ont opposé pour la deuxième journée consécutive les forces de police nigériennes à des manifestants à Abuja. Les protestataires réclament la libération de Ibrahim Zakzaki, un leader religieux chiite pro-iranien, en détention depuis 2 ans. Morgane Guériec.
Ibrahim Zakzaky est toujours en détention, malgré la décision de justice ordonnant sa libération. Leader de l'Islamic Movement of Nigeria, il avait été arrêté en décembre 2015 après des affrontements meurtriers entre ses partisans et l'armée à Zaria, dans le nord du pays. La police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène pour le deuxième jour de suite et procédé à plusieurs interpellations dans la capitale fédérale du Nigeria. Lundi, des heurts avaient déjà éclaté avec la police, qui a annoncé avoir arrêté au moins 115 partisans du mouvement chiite après plusieurs jours de manifestations à Abuja pour réclamer la libération de leur leader. La police affirme que 22 policiers ont été blessés par les manifestants armés de barres de fer et de pierres qui ont, d'après elle, perturbé l'activité et la circulation et détruit des véhicules de la police et du gouvernement. Une trentaine de manifestants ont également été blessés lundi, dont un grièvement, a affirmé à l'AFP le porte-parole de l'Islamic Movement of Nigeria, Ibrahim Moussa.
Les 3 étudiants nigériens ont été tués, 16 personnes blessées pendant un voyage d'études dans un parc animalier du nord du Cameroun. Selon la radio d'État, les blessés ont été pris en charge gratuitement à Garoua, chef-lieu de la région du nord du pays. Au Sénégal, Barthélémy Dia, le maire d'opposition et proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, est condamné à 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Il avait sévèrement critiqué les magistrats à l'issue du procès de Khalifa Sall, les accusant d'être manipulés par le pouvoir. En République démocratique du Congo, Greenpeace, 5 ONG et un député ont annoncé leur décision de saisir la justice et le Parlement. Ils veulent obtenir l'annulation de la réattribution de concessions forestières à des sociétés chinoises dans la zone des tourbières dans le pays. En mars dernier, le ministre de l'Environnement congolais a procédé à la délivrance d'au moins 2 permis de coupe industrielle aux opérateurs chinois qui ont vu leurs titres illégaux réintégrés en février. C'est ce qui a été dénoncé dans un communiqué. Et les commémorations du 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, poète, dramaturge et homme politique martiniquais ont commencé aujourd'hui. Le pourfendeur du colonialisme et défendeur de la négritude est célébré dans son île natale de la Martinique. Une figure emblématique aussi bien dans son pays que sur le continent africain s'en est allé le 17 avril 2008 à l'âge de 95 ans. Nous reviendrons sur son parcours dans la partie magazine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe entame aujourd'hui aux États-Unis 2 jours de discussions avec le président américain Donald Trump qui seront dominés par la question de l'armement nucléaire nord-coréen. Jacques Aristide.
Rencontre bilatérale, dîner avec épouse, conférence de presse commune, le président américain et le premier ministre japonais se retrouvent, comme l'an dernier, dans la luxueuse villa de Mar-a-Lago. Donald Trump a forgé des liens étroits avec Shinzo Abe depuis son entrée en fonction en janvier 2017. Les deux hommes, grands amateurs de golf, le président Trump, était à Tokyo en novembre dernier. Shinzo Abe dit vouloir réaffirmer la coopération américano-japonaise sur la Corée du Nord avant le sommet prévu fin mai ou début juin entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans un lieu qui reste à déterminer. Le Japon ne veut pas d'un accord par lequel Pyongyang abandonnerait ses seuls missiles balistiques de longue portée capables d'atteindre les États-Unis mais maintiendrait ses missiles de courte portée qui menacent le Japon. Les questions des relations avec la Chine et du commerce en général seront également abordées lors de ce sommet.
Et en Syrie, une équipe de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques est arrivée ce mardi dans la ville de Douma. D'après l'agence de presse officielle syrienne, Sana, ils doivent y enquêter sur une attaque chimique présumée. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
Les experts de l'OIAC ont débuté leur mission en Syrie dimanche. Ils se sont entretenus avec des officiels syriens, mais n'avaient pas encore pu, jusqu'alors, entrer à Douma. Ils y sont maintenant, soit 10 jours après l'attaque chimique présumée. La Russie et la Syrie avaient invoqué des problèmes de sécurité. La France les soupçonne d'avoir fait disparaître des preuves et des éléments essentiels. Le Royaume-Uni a quant à lui exhorté l'OIAC à demander des comptes aux auteurs de l'attaque. Cependant, les inspecteurs ont pour mandat d'enquêter sur l'éventuelle l'utilisation d'armes chimiques, mais pas d'en identifier les auteurs. Les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani appellent à poursuivre les efforts communs de la Turquie, l'Iran et la Russie pour protéger l'intégrité territoriale de la Syrie et trouver une solution politique durable à la crise. Plus de 40 personnes auraient péri sous l'effet des gaz toxiques le 7 avril, au moment où la ville était encore aux mains des rebelles. En représailles, le 14 avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui ont accusé le régime de Bachar al-Assad, ont mené des frappes en Syrie. Damas et Moscou ont démenti toute implication, accusant les rebelles de mise en scène.
Et le Kremlin a dénoncé ce qu'il estime être des accusations infondées après une mise en garde la veille par les États-Unis et le Royaume-Uni concernant une cyberactivité malveillante. Elle vise des administrations et des infrastructures cruciales, selon les États-Unis et le Royaume-Uni. Et à Cuba, une nouvelle page se tourne. Le président Raúl Castro passe le témoin jeudi pour une transition qui marquera la fin de près de 6 décennies de pouvoir sans partage de la fratrie Castro sur l'île caraïbienne. Nous avons parcouru un long et difficile chemin pour que nos enfants, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, soient heureux, déclarait Raúl Castro, qui avait succédé en 2006 à son frère Fidel, alors affaibli et finalement décédé en 2016. Fidel puis Raúl Castro auront dirigé Cuba pendant près de 60 ans. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
D'après le FMI, l'économie mondiale va croître à un rythme soutenu cette année et l'an prochain. Les États-Unis et l'Europe vont notamment porter cette croissance. Le FMI note en outre la performance solide du Japon, de la Chine et l'Inde, qui vont aussi contribuer au dynamisme mondial. Les pays exportateurs de matières premières doivent diversifier leur économie pour accroître leur expansion et leur capacité de résistance en cas de crise. Toutefois, l'effet des tensions commerciales risque de compromettre les prévisions annoncées. Enfin, les risques géopolitiques ne devraient pas non plus être sous-estimés. Ici aux États-Unis, les réductions d'impôts permettront une nette accélération de la croissance en 2018. Cependant, le FMI projette un tassement du rythme d'expansion après 2020. Le Mali a mobilisé plus de 149 milliards de francs CFA de recettes douanières en hausse de 4%. Ces recettes sont légèrement inférieures de plus de 7 milliards de francs CFA. La Banque des États de l'Afrique centrale a réalisé un bénéfice net de plus de 77 milliards de francs CFA. Néanmoins, cette marge accuse une baisse de plus de 53%. En 2016, le bénéfice était de plus de 164 milliards de francs CFA. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa souhaite attirer 8 milliards de dollars d'investissements dans le pays. La mission de mobilisation de ces investissements sera confiée à une équipe d'économistes et de cadres, dont les anciens ministres des Finances Trevor Manuel, Pravin Gordhan et l'ancien directeur de la Standard Bank, Jaco Mare.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tour de cadrage, retour de la Coupe CAF.
Et la belle qualification de l'AS Vita Club qui est allé battre à Pointe-Noire, la Mancha, le club de Kinshasa qui l'emporte 5 buts à 1. Match nul 0-0 en Algérie entre Belouizdad et l'ASEC Mimosa. Un résultat qui qualifie les Ivoiriens après leur victoire 1-0 à l'aller à Abidjan. Et dans les autres rencontres, l'USM Alger contre le Plateau United et Al Masry d'Égypte contre le CF Mounana.
Et Nicolas Bertrand Marchand jette l'éponge avec le club africain.
Oui, l'entraîneur français de 64 ans s'est séparé à l'amiable du club africain, club de première division tunisienne, et ce, 5 mois seulement après son recrutement. Aucun détail n'a été donné sur les raisons de cette séparation ou le futur de l'entraîneur du club africain, mais le club algérois de l'USM Alger a indiqué être intéressé par le technicien français. On rappelle que Bertrand Marchand était revenu au club africain en décembre 2017 pour une période de 6 mois. Il avait remporté la Ligue des champions africaines avec un autre club tunisien, l'Étoile sportive du Sahel, en 2007. En 2010, il était le sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie.
Benzema sans illusion pour la Coupe du Monde.
Et oui, Karim Benzema, dans une interview publiée par le mensuel Vanity Fair, assure qu'il ne fera plus rien pour convaincre Didier Deschamps de le reconvoquer en équipe de France, et ce, à moins d'un mois de l'annonce de la liste des 23 pour la Coupe du Monde. La dernière apparition de Benzema sous le maillot des Bleus remonte au 8 octobre 2015 en match amical contre l'Arménie.
En Italie, l'Inter Milan espère se relancer.
L'Inter Milan qui marque le pas en Serie A se doit de l'emporter ce soir à San Siro en ouverture de la 33e journée face à Cagliari pour ne pas décrocher et s'éloigner du top 4, synonyme de qualification pour la phase de poule en Ligue des Champions.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et 2-2 pour Golden State, emmené par Kevin Durant et Klay Thompson. Les Warriors, tenant du titre, ont donné une leçon d'adresse aux Spurs.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. C'est la sortie officielle du livre Ayo Loyalty, la version française s'appelle Mensonge et Vérité. Ce livre a été écrit par l'ancien directeur du FBI, James Comey. Leonard Wanchukwun, professeur de sciences politiques et économiques à l'université de Princeton, nous offre une lecture condensée de ses écrits. Il était au micro de Irénée Hermanoumbo.
Connaissant la personnalité de Jim Comey, la façon dont il a géré le dossier Clinton, son influence donc sur les élections de 2016, la façon dont il a été mis à la porte là, on s'attendait à ce que quelque chose de ce genre-là se passe.
Donc est-ce pour lui l'occasion pour se venger ou bien c'est une restitution de sa part de vérité dans son implication, notamment peut-être dans les questions liées à une éventuelle implication de la Russie dans les élections américaines?
Je pense que les deux, hein, bon, plus la restitution que la vengeance, parce que il y a pratiquement rien qu'il a dit qui soit terriblement surprenant. Donc tous les éléments dans le livre, bon, des choses qu'on savait déjà plus ou moins, maintenant il n'a fait que les confirmer. Maintenant, de ce point de vue, il donne un peu plus de crédibilité donc à l'enquête sur la collusion entre la campagne de Trump et puis la Russie. Il a choisi le bon moment parce que, bon, faut dire que le président est actuellement dans une situation très précaire et les gens se posent beaucoup de questions. Donc, elle est là en train d'apporter, disons, sa part de vérité, quoi.
Mais est-ce que, justement, les révélations ne mettraient-elles pas en cause l'enquête de Robert Mueller?
Pas du tout, parce que, en fait, je pense même bien le contraire. Parce que ce qui se fait, c'est que il y a déjà une campagne de la part des alliés de Trump pour délégitimer, disons, Mueller et montrer que, bon, c'est une chasse aux sorcières, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, etc. Alors, le fait qu'il y ait une autre voix qui confirme donc les soupçons très forts donc qu'il a actuellement donne encore un peu plus de légitimité et de crédibilité, je veux dire, donc aux enquêtes de Mueller.
À quoi peut-on s'attendre, à votre avis, dans les tout prochains jours, au regard du contenu de cet ouvrage qui sort aujourd'hui, il faut le rappeler?
Non, pas grand-chose. Hein. Je pense que ce qui va se passer, c'est que, bon, il y aura les alliés de Trump qui vont continuer à se défendre bec et ongles et à tenter de décrédibiliser sa version des faits. Mais malheureusement, c'est que en dehors donc du livre, il y a d'autres scandales sexuels, scandales de corruption, d'achat, donc du silence, tout ça qui aujourd'hui tourne autour du président et de son lawyer Michael Cohen. Donc tout ça rend difficile l'effort que les Républicains et Trump font donc pour pouvoir décrédibiliser et minimiser donc l'impact de ce livre.
C'était Leonard Wanchukwun, professeur de sciences politiques et économiques à l'université de Princeton, joint au New Jersey. Au Sénégal, les cours dans les établissements scolaires publics sont perturbés depuis plusieurs mois par les grèves des enseignants qui réclament de meilleures conditions socio-professionnelles. La récente intervention du président de la République n'a pas porté ses fruits malgré les augmentations promises aux enseignants à partir du mois d'octobre prochain. Le point avec Sédina Abagué à Dakar.
Aimé Césaire, comme vous l'avez si bien dit, c'est une personnalité connue du monde littéraire. C'est une personnalité à la fois politique, littéraire. C'est une figure de combattant, c'est une figure donc de résistant.
La situation de l'école publique est de plus en plus inquiétante et les enfants en sont les principales victimes. La Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal fait part de son impuissance à travers la voix de son secrétaire général, Dame Sek.
C'est une situation d'inquiétude et de désarroi total, hein, que nous sommes en train de vivre d'abord et d'insécurité aussi pour nos enfants qui, après le débrayage, doivent rentrer tout seuls quelquefois ou traîner dans la rue.
Le principal point d'achoppement des négociations demeure l'indemnité de logement allouée aux enseignants. Ces derniers la jugent trop faible par rapport aux autres corps de la fonction publique. Les syndicalistes exigent le respect des accords signés en 2014, comme l'indique Saourou Sen, secrétaire général du SAEMS, le syndicat majoritaire dans l'enseignement.
De 2012 à 2014, nous étions dans les discussions. Ce n'est qu'à l'issue de ces discussions que le gouvernement reconnaît lui-même qu'il venait de signer maintenant des accords réalistes et réalisables. 4 ans après, mais rien de concret n'a été fait par rapport à nos préoccupations.
Pour rétablir un climat de confiance et sauver l'école publique sénégalaise d'un naufrage, le gouvernement doit respecter ses engagements, comme l'affirme Cheikh Mbow, coordonnateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique.
La crise actuelle est fondée sur la base de non-respect des accords qui étaient pourtant qualifiés de réalistes réalisables par le gouvernement. Et sur le principe, nous continuons à penser que c'est au gouvernement de respecter les accords qu'il signe avec les parties prenantes en apprenant du passé qu'il y a un problème d'équité qui est posé dans le traitement des fonctionnaires de manière générale.
Au-delà du respect des accords, le système éducatif sénégalais doit faire sa mue pour retrouver le niveau qui est le sien. Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale et syndicaliste depuis 42 ans, juge qu'il faudrait des efforts de part et d'autre pour que la situation redevienne normale.
Le quantum horaire de 900 heures annuelles n'a jamais été atteint. Il varie toujours entre 500 et 600 heures par an. Donc on peut dire que l'enjeu principal pour le système éducatif sénégalais, c'est la qualité. C'est-à-dire, il faut que l'État s'engage et respecte ses engagements et que le syndicalisme enseignant dans l'espace francophone, au Sénégal particulièrement, qui est très divisé, eh bien, il faut que le syndicalisme fasse un peu un regard vers le syndicalisme de système anglophone où les syndicats sont unitaires et qui en fait ne sont pas grévistes.
Les enseignants exigent une revalorisation de leurs conditions socio-professionnelles et le respect des engagements pris par l'État du Sénégal en 2014. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Il y a 10 ans, jour pour jour, disparaissait Aimé Césaire. Politicien, poète et dramaturge, le Martiniquais était l'un des fondateurs du mouvement de la négritude dans la littérature francophone. Cet anticolonialiste dira au milieu des années 30 « Je suis de la race de ceux qu'on opprime ». Le docteur Jean Ouédraogo, chef du département des études francophones à l'université Holy Cross dans le Massachusetts, nous en dit plus au micro d'Azuma Compaoré.
Aimé Césaire, comme vous l'avez si bien dit, c'est une personnalité connue du monde littéraire. C'est une personnalité à la fois politique, littéraire. C'est une figure de combattant, c'est une figure donc de résistant. C'est quelqu'un qui porte aussi avec d'autres personnalités telles Senghor ou Léon Gontran Damas la paternité donc de ce mouvement si important, si fondateur également qu'est la négritude. Aimé Césaire définira par une série de négations qui retournent un peu contre l'Occident, ces préjugés qu'il faudrait dire racistes donc à l'égard du noir et qui retournent de par sa verbe poétique ces attributs qui sont censés déshumaniser l'homme noir et donc transformer en arme de combat, comme l'intitulé également d'un autre recueil de poésie qui s'appelle donc Les armes miraculeuses. Donc c'est cette personnalité-là qui est toujours présente même dans son absence physique. Il est présent dans les écrits, il est présent dans les chansons. Il n'y a qu'à voir des Gaël Faye, Kassav, parlant donc de génération consciente, ainsi de suite.
Justement, quel est l'héritage aujourd'hui d'Aimé Césaire, surtout pour l'Afrique?
Pour l'Afrique et pour peut-être ce qu'il faudrait appeler la francophonie, Césaire reste une figure marquante, en ce sens qu'on peut ne pas adhérer à la vision littéraire, à la vision esthétique donc de la négritude. On peut s'en départir, on peut même sans offusquer, mais c'est une base à partir de laquelle d'autres expressions littéraires, artistiques, que ce soit les tenants de la créolité, de l'antillanité, cette négritude-là reste fondamentale.
Est-ce qu'il y a un nouveau Césaire?
Est-ce qu'il y a un nouveau Césaire? Difficile à dire, il faut dire qu'il y a des aspirants Césaire, des gens nourris de la poésie de Césaire qui ont leur propre identité. Je pense que ce que l'homme nous laisse, un terreau à partir duquel donc pousser d'autres formulations, non seulement des questions identitaires, mais également d'autres formulations qui peuvent se départir de cette vision originale ou originelle. Donc se créer un chemin, une voie, une nouvelle voie qui porte aussi. Et on peut peut-être même être aimé Césaire sans être fondamentalement noir.
Docteur Jean Ouédraogo, chef du département des études francophones à l'Université Holy Cross dans le Massachusetts. Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Prince Loumani. À la console, Bill Barber. Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En vue de limiter les ressources qui attisent la guerre civile au Soudan du Sud, le département du commerce des États-Unis a imposé des exigences de licence à 15 entités pétrolières sud-soudanaises dont les revenus alimentent la crise en cours. Cela signifie que l'exportation, la réexportation et le transfert par ces entités de tout produit ou article américain sont désormais soumis à une licence d'exportation. Selon la Banque mondiale, le Soudan du Sud est l'un des pays le plus dépendants du pétrole, l'or noir représentant presque la totalité de ses exportations et environ 60% de son PIB. À travers leur action, les États-Unis espèrent accentuer la pression en vue de mettre un terme à 5 ans de guerre civile dans ce pays et la crise humanitaire qui en a résulté. En décembre 2013, en moins de 18 mois après avoir déclaré son indépendance, le Soudan du Sud s'est trouvé confronté à une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce conflit qui s'est transformé en une guerre civile a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. L'économie a été dévastée, avec en plus une prévalence des abus des droits humains, de la famine et de la malnutrition. Les violences ont fait près de 2 millions de déplacés internes et plus de 2 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Les 15 entités visées par les sanctions américaines incluent les ministères sud-soudanais du pétrole et des mines et la compagnie pétrolière d'État Nile Petroleum. Sont également visées Dar Petroleum Operating Company, la compagnie de distribution pétrolière Niak et Fils, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services et Sud Petroleum Operating Company. Ces compagnies sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert. Malheureusement, le gouvernement sud-soudanais et les responsables corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud au lieu d'assurer le bien-être et fournir l'aide alimentaire d'urgence en faveur du peuple sud-soudanais. Le gouvernement du Soudan du Sud peut faire mieux, a dit Helen Howard. En tant que principal fournisseur d'aide au Soudan du Sud, les États-Unis sont fiers de défendre les valeurs humanitaires et de fournir une assistance vitale. Le gouvernement du Soudan du Sud ne doit pas gaspiller cette générosité, mais plutôt prendre des mesures concrètes pour satisfaire les énormes besoins du peuple sud-soudanais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.